Je vais commencer par vous parler donc de vieillir en prison. On a donc une étude de doctorat qui a été faite par Jim A. Johnson. Donc, c'est une thèse de doctorat qui a été co-dirigée par Étienne Paradis-Gagné à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Et ce que nous dit finalement cette thèse-là, c'est que le vieillissement dépasse les standards observés dans la population générale, le vieillissement en prison, dis-je. Donc, on considère habituellement qu'une personne devient âgée à 65 ou 70 ans. Au niveau de la prison, on parle de devenir âgée à 50 ans. Donc, le vieillissement se fait plus rapidement en prison. Entre autres, parce que c'est des gens qui ont eu des parcours de vie difficiles. On parle d'un déclin physique et cognitif qui est plus rapide. On parle aussi que ces gens-là ont été souvent marqués par de l'instabilité, hein, de la pauvreté et malheureusement de l'usage de drogue. Donc, tout ça favorise un vieillissement qui est plus rapide en prison. Parallèlement, ben c'est sûr que la vie en prison impose des routines qui sont rigides, impose des délais, impose des longues heures qui sont des heures d'ennui où on n'est pas beaucoup stimulé intellectuellement, stimulé socialement. Donc tout ça participe aussi au vieillissement des personnes en prison qui se fait plus rapidement. Donc, c'est tout quelque chose à réfléchir, bien sûr, parce que ça montre, en fait, à la fois, évidemment, les limites au niveau des prisons dans ce qu'ils peuvent apporter comme service aux détenus. Et là, entendons-nous, on sait que les prisons, donc, ne sont pas des cubes de vacances et c'est pas ce que j'essaie de dire ici. Mais effectivement, c'est des endroits qui sont mésadaptés pour les personnes qui sont vieillissantes, où on a peu de services, où au final, peut-être qu'on ne participe pas vraiment à la réinsertion sociale des personnes emprisonnées parce que on les fait vieillir de façon prématurée, parce que on ne leur donne pas assez de quoi s'occuper le cerveau, puis de quoi finalement se garder en forme intellectuellement et physiquement dans le but de participer après leur incarcération à la vie publique de bonne façon. Donc, c'est tout quelque chose à réfléchir. Et j'ai aussi évidemment que les services pour les personnes vieillissantes en prison sont inexistants ou très peu là. Donc, les personnes qui vieillissent et vieillissent rapidement ne sont pas soutenues dans leur vieillissement, ont très peu de services pour les aider. Les lieux sont tout à fait mésadaptés. Le personnel de santé a peu de ressources pour aider les personnes qui sont vieillissantes à l'intérieur de la prison. Donc, il faut réfléchir. Peut-être que les prisons sont mal adaptées justement pour permettre aux détenus d'exercer une activité cérébrale, une activité sociale et de conserver leur acquis, toujours dans le but, évidemment, de les ramener à une vie en liberté où ils peuvent pleinement contribuer à la société parce qu'au final, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est tout ça qu'il faut vérifier. Peut-être dans notre vision aussi de ce qu'est la prison, que ce que devrait être la prison, que ça devrait apporter aux gens. Donc, cette étude-là nous amène à une réflexion là, sur le vieillissement en prison et aussi, j'ai envie d'ajouter, ça montre vraiment, vraiment à quel point le vieillissement est très, très touché et très, très perturbé par l'environnement. Hein? Donc, ça peut aussi mener à d'autres études en dehors des prisons qui peuvent voir à quel point l'environnement autour de nous peut affecter le vieillissement. Donc, c'est intéressant en ce sens. On parle toujours de vieillissement, on parle de vieillissement du cerveau. On dit souvent que il faut être actif, hein, il faut faire des activités physiques pour se garder en forme lorsqu'on vieillit. Et pour éviter de souffrir de neurodégénérescence, donc pour éviter d'avoir des problèmes cognitifs, de perdre sa cognition, on dit souvent donc qu'il faut faire des activités physiques. Eh bien, il y a une étude qui vient de sortir. Qui dit qu'au final, le fait de faire du sport, de faire des activités physiques, oui, est très important, on n'en remet pas sans doute, mais d'autant plus important, ce serait donc de se lever, hein, de rester, d'être debout plus souvent. Le fait d'être assis, est très, très dommageable pour les personnes au niveau cognitif. C'est des résultats qui ont été publiés dans la revue Alzheimer and Dementia qui contredisent l'idée que peu importe le temps passé assis, pourvu qu'on bouge quotidiennement, donc pourvu qu'on fasse notre 15-20 minutes d'activité physique par jour, on peut donc contrer les effets du vieillissement et les effets de la dégénérescence cognitive. C'est ce que cette étude-là dit, en fait, c'est qu'il faut surtout se lever hein, et ne pas rester assis toute la journée. On parle de, évidemment, 150 exercices physiques par jour. Donc, à intensité modérée. Par contre, on veut aussi, en plus de ça, avoir des gens qui restent debout plus longtemps, qui se lèvent plus longtemps, qui ne restent pas assis à leur bureau trop souvent dans la journée, surtout si on est des personnes qui sont en risque d'Alzheimer, donc qui sont porteurs des gènes qui augmente le risque d'être Alzheimer. Donc, on parle de l'allèle APOE4, oui, pour ceux et celles qui connaissent. Donc, il y a moyen de tester si on a ces gènes-là ou pas. Pour les personnes qui sont porteuses, évidemment, ça devient d'autant plus critique de se lever plus souvent dans la journée pour éviter donc cette dégénérescence-là. Donc, on dit oui à l'activité physique, bien sûr, mais d'autant plus crucial donc de se lever souvent et d'emmener des initiatives comme le fait de travailler debout à son bureau par exemple, d'avoir des stations debout lorsque c'est possible de se lever plusieurs fois de sa chaise lorsque c'est possible aussi au bureau. Donc ça vient emmener une réflexion par rapport à ça. Toujours au sujet des personnes âgées. On a une étude qui parle des effets des réseaux sociaux sur les personnes âgées, alors que ça transforme leur quotidien et que ça vient transformer les interactions familiales et sociales. On s'inquiète très souvent des jeunes hein, et de leur activité sur les réseaux sociaux ou de leur dépendance même aux réseaux sociaux. On parle très peu des personnes âgées. Et pourtant, la dépendance aux réseaux sociaux sur les personnes âgées existe. Et d'autant plus, les personnes âgées donc vont utiliser les réseaux sociaux. Et ça va nuire aux relations familiales, aux relations interpersonnelles, bien sûr, parce qu'on est sur notre écran. Et paradoxalement, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui sont vieillissantes le font pour faire des connexions avec les gens hein, vont s'inscrire sur des réseaux de rencontres vont s'inscrire sur des réseaux sociaux dans le but de connecter avec des vieux amis donc l'attention est là l'attention est tout à fait noble mais ce qu'on se rend compte au final c'est que ça vient perturber donc les relations de vive voix, les relations réelles qu'on a avec les gens. Donc, les réseaux sociaux, c'est un moyen de combattre l'isolement social, mais ça peut avoir un double effet. L'enjeu ici, c'est pas de diaboliser la technologie, mais de faire attention à nos personnes âgées autour de nous pour voir si c'est possible de peut-être réduire le temps d'écran et d'être au courant hein, que cet enjeu-là existe et qu'il est peu bénéfique hein, pour les personnes qui sont vieillissantes. Donc, de faire attention que si jamais on pense que qu'une personne vieillissante autour de nous utilise trop les réseaux sociaux et que ça a un effet pervers, un effet inverse de l'isoler, mais d'aller chercher des ressources pour aider cette personne-là. On parle encore une fois de vieillissement, donc on parle surtout de l'angoisse de l'après-parent. L'angoisse de l'après-parent, c'est le fait que pour les personnes qui ont des enfants qui sont en situation d'handicap lourd, quand les parents vont décéder ou ils ne seront plus en mesure de prendre soin de leurs enfants qui ont un handicap lourd, on va souvent mettre le poids de s'occuper de cet enfant-là sur les frères et sœurs. Et c'est souvent quelque chose dont on parle peu. C'est des enjeux sociaux importants parce que, évidemment, les frères et sœurs, à ce moment-là, deviennent des proches aidants, entre guillemets, un peu malgré eux, hein, parce que, évidemment, ils n'ont pas choisi cette vie-là, mais ayant un frère ou une sœur en situation d'handicap lourd, se retrouvent contraints de devenir procédant, particulièrement lorsque dans les sociétés comme, comme on voit au Québec en ce moment, les ressources sont insuffisantes pour aider les personnes, pour aider les personnes avec des handicaps lourds, par exemple. Donc, on vient à pallier le manque de ressources avec les frères et sœurs, avec les parents d'abord, mais avec les frères et sœurs lorsque les parents se retrouvent en incapacité de faire ce travail-là. Donc, c'est une étude qui est sortie en France qui dit qu'au final, les frères et sœurs se retrouvent bouleversés par ce poids-là qui revient à eux après que les parents soient décédés, soient rendus à une étape de leur vie où ils ne sont plus capables physiquement de s'occuper de leur enfant. Donc, 95% des parents en situation de handicap redoutent l'avenir de leur enfant lorsqu'ils vont être décédés. On parle aussi, donc, de frères et sœurs là, qui se disent avoir une charge mentale permanente qui va affecter leur santé psychologique. On parle de choix de vie ou de main impactés, donc de personnes qui vont arrêter les études, qui vont arrêter leur emploi, qui vont changer de maison, qui vont déménager dans l'optique de s'adapter à un frère ou une sœur qui est en situation de handicap lourd. On parle aussi d'un tabou, hein. On n'en parle pas beaucoup dans les familles. Et lorsque, évidemment, la situation arrive où les parents ne sont plus en mesure de s'occuper des enfants, bien, les frères et sœurs se retrouvent devant le fait accompli. Hein. Et souvent, ils n'ont pas nécessairement d'endroit où ils peuvent aller habiter là, pour la personne qui est en handicap lourd. On manque de ressources, vous le savez. Donc, ils se retrouvent un peu à devoir prendre cette charge-là malgré eux et ça cause des détresses psychologiques importantes. Et il y a aussi, évidemment, là, un manque de services pour les personnes en situation de handicap et ils n'ont pas toujours les ressources à la maison hein, pour bien s'occuper des personnes en situation de handicap. Donc, leur frère et leur sœur, qui est lourdement handicapé, n'a pas toujours les services dont il a besoin hein, et tout ce dont il a besoin pour évoluer à sa pleine capacité et être bien dans son environnement. Donc, on parle aussi du fait que le gouvernement va rejeter donc cette responsabilité-là sur les familles, hein, mais que les gouvernements devraient en faire plus pour s'assurer que les personnes en situation de handicap lourd soient bien traités, qu'ils aient un endroit où rester, qu'ils respectent les rôles de tout le monde, hein, qu'une sœur ou un frère puisse rester le sœur ou le frère sans devenir nécessairement un proche aidant ou un infirmier, infirmière. Donc, c'est quelque chose à réfléchir, hein, de la façon dont notre société est construite et du poids qu'on met sur les frères et sœurs de personnes lourdement handicapées et du manque de ressources qu'on a pour les personnes qui sont lourdement handicapées. Donc, c'est ce qui met fin à notre revue de presse cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Sans détour. Et d'ici là, je vous souhaite une magnifique semaine.